Les nuits de France Culture.
Certaines légendes et mythologies ont la vie dure. Prenez le cas de la destruction de l'Atlantide. Cet épisode, rapporté par Platon dans le Timée et le Critias, a suscité quantité de discussions et de controverses depuis l'Antiquité. Parfois d'ailleurs dans les registres les plus farfelus, avec même une coloration ésotérique. La chose n'est pas surprenante, les récits de Platon comportant eux-mêmes une dimension morale et philosophique. Le lointain souvenir d'une catastrophe devient la base d'un récit ayant sa cohérence intellectuelle, mais sans doute très éloigné des événements historiques avérés. Pourtant, de nombreux scientifiques ont longtemps voulu trouver une localisation précise à l'Atlantide. Sur la base d'enquêtes et de recherches sur le volcanisme et les phénomènes tectoniques ayant marqué l'Antiquité, c'est l'île grecque de Santorin, île volcanique, qui a été désignée comme le cadre de la disparition et de la submersion d'une brillante civilisation. L'émission que voici, un numéro d'archéologique par Vincent Charpentier, apporte un démenti formel à ces hypothèses et ses tentatives pour identifier un cadre et un site réel à l'Atlantide compté dans les récits de Platon. Certes, Santorin a bien connu une éruption majeure il y a environ 3500 ans, une éruption qui a eu des conséquences sur le déclin de la civilisation minoenne. Mais le rapprochement avec les récits mythiques s'arrête là, selon les deux archéologues interrogés par Vincent Charpentier, Jean-Claude Poursat et René Treuil. L'île de Santorin, son histoire, l'éruption volcanique qui la ravagea dans l'Antiquité et les récits mythiques relayés bien plus tard autour de cette catastrophe, ce sont les questions abordées dans cette émission, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 30 juin 1990.
En l'an 79, l'éruption du Vésuve détruisit Pompéi et causa la mort de 30 000 âmes. Plus récemment, celle de la montagne Pelée raya Saint-Pierre, tandis que la Soufrière et le Piton de la Fournaise s'animent toujours ponctuellement. Nous ne parlerons pas aujourd'hui de ces volcans, ni d'ailleurs du Krakatoa ni du Nevado del Ruiz, mais d'un autre, à l'heure actuelle bien calme, ayant été toutefois la cause de la destruction de l'île de Santorin. Deux archéologues, René Treuil, professeur à la Sorbonne, et Jean-Claude Poursat, professeur à Clermont-Ferrand II, vont cet après-midi tenter de débrouiller cet événement et ses conséquences, de fouiller parmi les décombres de l'ancienne Terra qui fut recouverte par 60 mètres de pierre ponce. René Treuil, comment devait se présenter l'île de Santorin avant cette catastrophe ?
Eh bien, avant cette catastrophe, l'île de Santorin, qu'évidemment nous devons imaginer à partir de la physionomie de l'île actuelle, telle que les géologues ont pu l'étudier, cette île se présentait comme un dôme volcanique, une sorte de piton avec une forme plus ou moins circulaire, qui a fait que justement dans l'Antiquité, on a donné à cette île le nom d'île ronde. On l'appelait Strongylae, l'île ronde, parce que justement elle avait bien cette forme-là. Et c'était en même temps une île qui avait déjà été modelée par le volcanisme, puisqu'il y avait eu de nombreuses éruptions dont nous ne parlerons pas aujourd'hui, mais qui, pendant des âges géologiques, avaient secoué déjà beaucoup la région, qui est une région sensible puisqu'elle se trouve, on peut dire, à la charnière des deux plaques tectoniques qui sont celles de l'Afrique et celles de l'Europe. Une région où le volcanisme est très actif, un peu en arrière de la zone de contact des deux plaques. Et l'éruption dont nous parlons est la troisième depuis le Pléistocène, c'est-à-dire depuis une époque géologiquement récente.
Et qui était installé là, à cette époque ?
Eh bien, dire qui était installé là est peut-être difficile, puisque nous n'avons pas les cartes d'identité de ces gens-là. Nous n'avons pas idée des premiers habitants, dans la mesure où, dans cette région, dans ces îles des Cyclades, l'époque néolithique, par exemple, est mal représentée. deux ou trois sites dans des îles dispersées représentent cette époque. Et on sait par ailleurs que la navigation était connue, donc il peut y avoir une occupation aussi ancienne. En fait, la première occupation qui soit bien connue ici date du début de l'âge du bronze. C'est ce qu'on appelle le bronze ancien. C'est le troisième millénaire avant notre ère. C'est donc ce qui prépare la grande époque, ce qui précède la grande époque de la civilisation minoenne, mais qui, dans les Cyclades, est déjà une époque très brillante. À Santorin même, on ne peut pas dire qu'elle soit très brillante, elle est plutôt mal connue. Et à la fin de ce millénaire, se créent là des agglomérations, des villes qui sont installées, on peut dire, sur les pentes du volcan.
C'est une ville, enfin une partie importante d'une ville extrêmement importante qui a été révélée par les fouilles de Marinathos à partir de 1967 essentiellement. Les sites archéologiques de Terra étaient connus dès le 19e siècle où il y avait eu déjà quelques recherches.
Mais il faut dire, excuse-moi, que Fouquet, le géologue français, avait été le premier à fouiller quelque chose de comparable à ce qu'on connaît maintenant à Crotiri.
Et a publié un ouvrage tout à fait important sur les éruptions de Santorin au siècle dernier. La fouille de Marinathos a révélé sur le site d'Akrotiri un certain nombre de bâtiments qui appartiennent à une ville soigneusement organisée. Ça n'est qu'une partie d'une ville qui a été dégagée à l'heure actuelle, mais qui a fourni des bâtiments tout à fait remarquables par leur importance, leur richesse et naturellement, en comparaison avec Pompéi ou Herculanum, par le matériel qui a été conservé et surtout par le fait que les bâtiments, ce qui est à peu près unique dans le monde égéen, les bâtiments sont conservés sur trois étages en un certain nombre d'endroits, ce qui permet d'observer les fenêtres, les portes.
On connaît 85 fenêtres.
Voilà. C'est quelque chose dans l'archéologie, c'est le maximum d'archéologie.
Donc des conditions de conservation idéales pour une fouille archéologique, un matériel extrêmement riche et qui révèle donc une civilisation tout à fait brillante.
Alors cette civilisation brillante, vous me dites on en a fouillé qu'une petite partie, mais vous me parlez de vases, de fenêtres, on a aussi quand même un petit peu de, je sais pas, de peinture, enfin on s'imagine un peu ce que l'on a en Crète, donc j'essaie de faire un report sur cette région que je ne connais pas.
Ce qui a fait la célébrité de Santorin très rapidement après cette reprise des fouilles par Marinathos, c'est la découverte donc des bâtiments qui se comparent aux bâtiments palatiaux de Crète, mais ça a été surtout la découverte des fresques. Un décor composé de thèmes différents, de thèmes qui viennent de Crète, qui sont inspirés de ceux de la Crète. Alors on a par exemple...
On est complètement sous influence crétoise, d'après ce que vous me dites là.
Tout à fait. L'art des fresques...
On est dans le monde crétois.
On est dans le monde crétois. Au point de vue culturel, sans doute pas au niveau politique, ça c'est une autre question, mais au niveau culturel, il y a une influence crétoise qui peut être de mode, simplement, qui est absolument nette. Et les thèmes que l'on retrouve sont la plupart du temps des thèmes... connu déjà à Knossos, et traité selon des techniques qui sont les techniques minoennes. Il y a certainement eu une influence des écoles de peintres de fresques crétois sur ces artistes de Terra. Et l'on trouve par exemple des singes bleus qui gambadent le long des murs, exactement comme à Knossos. On trouve des enfants qui boxent, on trouve des paysages printaniers avec des hirondelles. Là, l'hirondelle est un trait spécifique de Terra qui volette au-dessus de fleurs et de rochers, traité exactement à la manière crétoise. Et puis, il y a naturellement cette fresque la plus célèbre de toutes, une fresque dite miniature, parce que c'est un bandeau d'une trentaine de centimètres de hauteur, simplement, qui décorait les quatre côtés d'une des pièces d'une maison très importante d'Akrotiri, la maison ouest, et qui représente plusieurs villes, des paysages entiers, des fleuves, la mer, et une flotte de 9 bateaux qui voguent d'une ville vers une autre et qui a révélé à la fois des paysages de cette époque qui nous restaient totalement inconnus et des détails absolument extraordinaires sur l'activité, sur les personnes de cette époque.
Et comment s'est déroulée cette éruption? Est-ce que l'on peut d'ailleurs la reconstituer?
Oui.
Pas sûr. Oui, vous pouvez.
Curieusement, pas moi personnellement, mais avec le secours d'un certain nombre de géologues qui ont beaucoup travaillé sur la question, avec le secours de l'éruption du Krakatoa de 1883 dont vous disiez que nous ne parlerions point, eh bien nous en parlons puisqu'elle apporte un éclairage. On peut reconstituer en effet l'éruption et avec beaucoup de détails finalement aujourd'hui. au point qu'on peut se demander si parmi les éruptions de ce type-là, de type explosif, ça n'est pas l'une des mieux connues aujourd'hui, bien qu'elle se soit passée vers 1500 avant notre ère. Au début, il y a, justement, je vous disais tout à l'heure que la cheminée était bouchée, le magma monte dans une espèce de tuyau et ce magma est visqueux, donc il se produit un phénomène de bouchon, la pression augmente à mesure que le magma monte, et puis à un certain moment, eh bien, c'est comme un bouchon de bouteille de champagne, ça explose. Ça explose, le bouchon saute, et à ce moment-là, la pression est libérée, des gaz se déchaînent et montent verticalement, ils se forment ce qu'on appelle une colonne plinienne, celle qui précisément a été observée par Pline l'Ancien lors de l'éruption du Vésuve. Et c'est la première phase. Elle entraîne une grande quantité de poussière à une altitude élevée et ces poussières forment un nuage qui ensuite se diffuse au-dessus des Cyclades, du Dodécanèse et est emporté probablement en direction de l'est. C'est donc une première phase qui n'est pas très destructrice dans la mesure où sur l'île ne retombe à ce moment-là qu'une faible quantité de pierre ponce. C'est l'écume du magma, la pierre ponce, elle est vitrifiée parce qu'elle a été portée à une haute température, mais ce n'est que l'écume. Il retombe un peu de poussière, mais finalement, ce n'est pas une phase très destructrice. C'est ensuite que les choses se gâtent, au bout d'un intervalle que l'on ne connaît pas, qui peut se chiffrer en semaines, en mois, en jours, on ne sait pas bien. Alors là, il se produit effectivement des phénomènes du style de ceux de la montagne pelée. Ce sont des nuées ardentes, en fait. Bon, il y a différents termes techniques, des phases un petit peu différentes, mais le principe, c'est la nuée ardente, c'est-à-dire un énorme nuage qui sort à une vitesse foudroyante du volcan, mais dans le sens horizontal, et non pas vertical, ou bien en suivant le relief comme une véritable cascade. C'est brûlant, ça dévaste tout, ça tue tout, mais ça ne va pas très loin. Ça ne peut pas, par exemple, aller en crête. Il n'est pas question que ça franchisse des distances de ce genre. La mer l'arrêtera immédiatement, et ça se solidifie sur place, ça retombe sur place, ça forme ce qu'on appelle un tuf, une variété de tuf, et c'est le résultat de ces nuées ardentes que nous voyons aujourd'hui sur toute la surface de l'île, et bien entendu sur la ville d'Akrotiri, ces dizaines de mètres, 60 mètres au maximum, de matériaux volcaniques qui se sont accumulés, et qui sont simplement le résultat de la solidification de ces nuées ardentes. En même temps, et là, on arrive peu à peu à la troisième phase de ce phénomène. En même temps, le cratère, la partie centrale du cratère se vide de tous ces matériaux qui ont été expulsés à l'extérieur. Et ces matériaux eux-mêmes, dans la mesure où ils retombent sur le volcan, créent un poids supplémentaire. Donc tout se conjugue pour que finalement les parois mêmes du volcan ne soient plus soutenues par rien et soient au contraire entraînées vers le bas. Et donc tout cela se fracture, tout cela se casse. Le dôme volcanique circulaire que nous avions au départ se fracture. Il s'est fracturé, nous le savons, nous le voyons sur la carte aujourd'hui, d'une part du côté du nord-ouest et d'autre part en deux points du côté de l'ouest. La mer s'engouffre là-dedans et là où il y avait le cratère, au bout du compte, il n'y a plus aujourd'hui qu'un gigantesque entonnoir de 700 mètres de hauteur. Et ce qui reste à la surface de cet entonnoir, ce sont les îles que nous voyons aujourd'hui, l'île de Santorin proprement dite, l'île de Terrazia en face et un petit îlot qui est entre les deux. Voilà ce que...
Donc si je comprends bien, le centre de l'île s'est littéralement effondré.
Oui. À la fin du processus, le centre de l'île s'est effondré.
Et la mer s'est engouffrée
là-dedans. Il y a donc eu, évidemment, non pas un, mais probablement des raz de marée, des quantités de raz de marée. Peut-être pas extraordinaire dans la mesure où le phénomène a été progressif. Ce n'est peut-être pas le raz de marée du Krakatoa qui avait 36 mètres de hauteur. Ça devait être quand même un des raz de marée assez sérieux.
Les gens avaient eu-t-il le temps de fuir déjà cette île ?
Oui et non. Oui et non.
Archéologiquement, on devrait le voir.
Je dirais oui et non. Oui, ce n'est pas Pompéi, c'est dommage. Nous n'avons pas trouvé de squelette, à part celui d'un cochon, paraît-il, mais pas de squelette humain. Donc, nécessairement, les gens étaient partis. De notre côté, si on se représente la situation en ce beau jour du deuxième millénaire avant notre ère, les gens ont vu venir l'éruption, certainement, dans tous les cas, et ils ont cherché à fuir. Comment pouvait-il fuir dans un cas de ce genre, sortir d'une île pareil, et en particulier à Akrotiri. Ils étaient de toute manière au bord de la mer. Ils ont certainement pris des bateaux et se sont enfuis sur la mer. On imagine par exemple en direction de la Crète, mais peu importe, quelle que soit la direction dans laquelle ils sont partis, nous n'avons plus de traces de ce qui leur est arrivé. Et on peut très bien aussi imaginer, c'est peut-être un peu dramatisé, mais après tout pas tellement, on peut très bien imaginer qu'ils aient été rattrapés par une de ces nuées ardentes et grillés vifs avec leur bateau. Voilà ce qui a pu leur arriver.
C'est formidable, c'est de l'archéologie fiction là que vous faites, mais c'est formidable.
Oui, on est à la limite de la fiction.
Il faut revenir un petit peu sur l'histoire crétoise, parce que aujourd'hui nous portons notre attention sur Santorin même, sur cette ville d'Akrotiri qui est magnifique, mais il faut penser qu'avant la reprise des fouilles, Marinatos ne connaissait pas naturellement cette ville d'Akrotiri, et que son idée qui l'a conduit à reprendre les fouilles à Téra, c'était d'expliquer les destructions qui avait eu lieu en Crète vers 1450, cette date qui est fixée là aussi de manière approximative, mais que nous considérons comme à peu près valable en général, celle qui est partout reproduite. Vers 1450 en Crète, les seconds palais sont détruits, à l'exception toutefois de Knossos, mais la plupart des sites crétois sont en même temps détruits. Donc une destruction gigantesque de la Crète et qui touche très fortement la civilisation minoenne. Et cette destruction a semblé si gigantesque qu'au lieu de l'interpréter simplement comme le résultat d'actions humaines, d'actions guerrières, on a cherché un cataclysme hors du commun pour expliquer ces destructions. Et l'on a pensé immédiatement à cet effondrement volcanique de Santorin, dont on savait donc qu'il se plaçait à l'âge du bronze. Mais très rapidement, immédiatement, on s'est aperçu que Santorin avait été détruite, Akrotiri avait été détruite avant les sites crétois, au moins une cinquantaine d'années avant.
Alors pour revenir à la Crète, est-ce qu'éventuellement les Mycéniens auraient pu profiter de cette catastrophe pour envahir la Crète ?
C'était l'idée que l'on avait eue au début, puisque une des théories sur ces destructions de 1450, ou en tout cas qui accompagne ce phénomène, c'est que les Mycéniens ont pris pied en Crète à ce moment-là et se sont emparés du pouvoir à Knossos. Étant donné maintenant que nous savons que l'éruption de Santorin s'est placée une cinquantaine d'années avant la destruction des sites crétois, cette hypothèse est un petit peu fragilisée. Il y a un intervalle chronologique relativement important. Mais l'on pourrait penser que la Crète a été affaiblie pendant une cinquantaine d'années après l'éruption de Santorin, par suite des conséquences de cette éruption, et que les Mycéniens auraient pu donc profiter d'un affaiblissement de la Crète pour s'y installer. Ce n'est pas très vraisemblable. Ce n'est pas très vraisemblable parce que, curieusement, il semble que l'éruption de Santorin, d'une part, n'a pas provoqué de gros dégâts en Crète vers 1500, et d'autre part, la vie dans les Cyclades, d'une manière qui est assez étonnante pour nous aujourd'hui, ne semble pas avoir beaucoup varié. Or, Téra était certainement un des centres principaux de l'activité maritime dans les Cyclades, et il ne semble pas que les relations maritimes avec les autres îles des Cyclades, avec le continent grec, avec la région de Mycène, aient été particulièrement perturbées. C'est du moins ce qui apparaît dans le constat archéologique à l'heure actuelle. Donc, qu'ils en aient profité directement, ça ne semble pas être le cas. On ne voit pas dans quelle mesure les Crétois, d'ailleurs, auraient gêné particulièrement les Mycéniens antérieurement. On n'a pas l'impression d'un conflit véritable entre Mycéniens et Minoens au moment de cette éruption de Santorin. Il a pu y avoir un affaiblissement passager, naturellement, de la Crète. Ce sont sans doute les Mycéniens qui sont venus en Crète en 1450, qu'ils aient profité de ce phénomène de l'éruption volcanique de Santorin paraît discutable, disons.
Alors bien sûr, parler de Santorin sans évoquer l'Atlantide, c'est croire qu'il y aurait eu plus de coulées de lave que de coulées d'encre. Santorin revient fréquemment pour cette Atlantide. Deux mots, l'émission vient bientôt se finir. Deux mots, vous croyez, vous, René Treuil, à cette Atlantide, à Santorin ?
Difficile de répondre en deux mots à une question qui a effectivement fait couler toutes sortes de choses, mais je crois qu'on peut essayer quand même d'expliquer ce que nous en pensons et qui est évidemment marqué de beaucoup de scepticisme. Le mythe que raconte Platon, selon lequel l'Atlantide était un empire remarquable avec une grande puissance navale, avec des réalisations matérielles tout à fait extraordinaires, c'est quelque chose qui a une fonction dans les textes de Platon, qui sont, rappelons-le, des textes philosophiques. C'est quelque chose qui a une visée pédagogique, un mythe qui est construit probablement de toutes pièces pour enseigner quelque chose, pour illustrer une théorie, pour la mettre en acte. Donc, même si pendant des siècles et des siècles, beaucoup de scientifiques, même à commencer par les disciples de Platon, sauf Aristote, certains ont pu penser qu'il y avait là-dedans une part de vérité, je crois qu'aujourd'hui, on peut se tenir à une analyse interne des textes de Platon, dire que le mythe se justifie par lui-même dans ces textes, que donc il n'y a pas à faire une recherche historique derrière ce mythe, que d'ailleurs l'histoire de l'Atlantide ne figure dans aucun texte écrit par aucun historien de l'Antiquité, sauf ceux qui ensuite ont recopié Platon. Et donc finalement, chercher l'Atlantide, que ce soit en Bretagne ou au milieu du Pacifique, à Santorin ou en Crète, c'est quelque chose qui, à nos yeux, n'a pas de sens. Tout simplement, la question n'a pas de sens. C'est dommage, peut-être pour la poésie, mais pour la réalité historique, c'est peut-être meilleur de le dire.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 30 juin 1990.